nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Habiter pleinement la mer dans le respect de son environnement et de ses ressources, tel est l'engagement de l'architecte Jacques Rougerie, membre de l'Institut. Attelé à des projets concrets de création d'établissements marins, d'aménagement du littoral, de musées ou d'aquariums géants, ses navires futuristes et ses études d'habitat sous-marin le conduisent à interroger en permanence le rapport de l'homme à la mer. Jacques Rougerie appelle de ses vœux une nouvelle architecture de la mer qui embrasse les questions d'environnement pour les générations futures. Le projet le plus emblématique de son œuvre est la réalisation de Sea Orbiter, qui a germé dans son esprit en 1998 et qui a été officiellement lancé en 2005. Le public connaît déjà les lignes futuristes de ce vaisseau d'un genre nouveau. Depuis l'exposition cette année-là consacrée à Jules Verne, organisée par le musée de la Marine à Paris, et cette plateforme des océans, Sea Orbiter, de forme verticale, le vaisseau d'exploration scientifique qu'il s'est fixé de construire est une future sentinelle de l'océan. Merci Jacques Rougerie d'être avec nous pour cette première émission des Sentinelles de l'océan, une série de rendez-vous pour prendre le pouls de la planète mer. Imaginons, chers auditeurs, ou pensons-nous comme des sujets, des dignes représentants de cette génération espace-mer qui est si chère au cœur de Jacques Rougerie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir à quoi ressembleront les ports du futur avec Jacques Rougerie et de revenir sur la marée noire qui a frappé le golfe du Mexique cette année. Tout d'abord, où en est le projet de Sea Orbiter, Jacques Rougerie ?
Eh bien, nous sommes en train de terminer les études pour lancer les appels d'offres. Donc, on pense que dans 6 mois, avec Technip, nous pourrons lancer les appels d'offres. Dès qu'on a fini de boucler le montage financier de Sea Orbiter, ce qui normalement devrait se faire dans les 6 prochains mois, nous mettons en construction donc Sea Orbiter.
Dans les prochains mois ?
Dans les 6 prochains mois, donc c'est demain. Ça va aller très vite, je pense, maintenant. Comme je vous ai dit, dès qu'on a bouclé le budget, définitivement, à ce moment-là, on peut envoyer les appels d'offres et aussitôt mettre en chantier. Je vous rappelle que c'est 1 an et demi de chantier et puis après 6 mois d'essai à la mer, donc en Méditerranée plus exactement. Et puis nous passons en 2014 dans le Gulf Stream, si tout va bien.
Poursuivre ce fameux courant et découvrir les espèces.
Poursuivre en dérive ce fameux courant, observer la biodiversité et évidemment analyser tous les phénomènes climatiques.
J'arrive à peine à y croire, quelques mois. On ne sait pas encore, donc tout dépendra des appels d'offres, de l'endroit où ça sera construit.
Absolument. Alors, il y a d'ores et déjà plusieurs chantiers qui ont demandé à construire ces orbitaires. Donc, on a 5 chantiers à l'heure actuelle en concurrence pour construire ces orbitaires.
En France, en Europe ?
En France, en Europe, bien entendu. Mais on restera dans la zone européenne.
Ouais, écoutez, vous reviendrez très vite nous parler de l'avancée de ce projet qui promet là d'être... Alors, parmi les navires du futur, les gens s'intéressent aussi beaucoup, j'allais dire, d'abord aux voitures du futur. On imagine des voitures électriques, des voitures solaires. Comment ça se passe pour la mer ? Est-ce qu'il y a l'équivalent ?
Alors, il commence à y avoir l'équivalent. Cette prise de conscience, maintenant, devient réaliste. Enfin, on est dans une phase, maintenant, où on recherche, en effet, la possibilité de rendre les bateaux beaucoup plus autonomes par rapport aux énergies renouvelables. Et on voit apparaître des nouvelles technologies qui s'adaptent à ces navires du futur. Mais le problème, c'est quand on pense navires du futur, il faut penser port d'attache de ces navires du futur.
Alors, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Comment voyez-vous les ports de demain ?
Alors, c'est relativement difficile parce que c'est assez récent et on ne peut pas faire une mutation du jour au lendemain car ces navires du futur vont progressivement se mettre en place dans la chaîne que représente le transport maritime ou tout ce qui est lié à la marine, que ce soit la marine de plaisance, que ce soit les transports maritimes, la marine de guerre. Donc, il faut qu'on puisse adapter en grande partie les ports existants à ces navires du futur. Donc, transformer progressivement les ports existants pour accueillir ces navires suivant leurs besoins.
Et on va continuer à dissocier comme ça les activités le long du littoral, vous savez, entre le port, la ville.
Alors voilà,
comment vous l'imaginez,
les ports du
futur
vont, enfin certains ports, ça dépend dans quelle activité va se développer l'activité portuaire, mais de plus en plus, on revient sur cette notion de vie au cœur même d'une organisation sociale, au cœur même des ports du futur. Donc, il y aura évidemment des ports complètement liés à l'industrie, mais avec une partie possible d'organisation sociale autour de ces ports, et puis ces micro-ports du futur où il y aura complètement comme un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire une vie sociale autour du port qui s'organisera, et il y aura des activités évidemment spécifiques au développement de ces ports.
Est-ce que c'est différent de l'aménagement du littoral qu'on a connu il y a 20 ans ? C'est-à-dire, oui. Je pense à la côte américaine qui a lancé ça, où on a réaménagé les docks, etc. Là, c'est une autre approche quand même.
C'est-à-dire que ce sont des approches avec des activités multifonctions, beaucoup plus que des activités monofonctions, voyez-vous. Donc, et puis, c'est une question aussi d'échelle. Les ports seront plus petits, à des échelles donc beaucoup plus humaines, beaucoup plus liées au développement durable et tout ce qui est lié à l'environnement, l'impact sur le site, l'impact sur les structures justement existantes, ça ira beaucoup plus dans ce sens-là.
Une échelle différente ?
Une échelle différente, exactement. Alors, il y aura sûrement des échelles par rapport à des zones portuaires, de supercontainers existants.
Oui, Rotterdam,
existants.
J'imagine,
voilà, Rotterdam qui vont subsister,
être
bien entendu.
Carte.
Mais là, on parle d'unités de ports beaucoup plus liées à la plaisance, à un cabotage beaucoup plus littoral.
On peut imaginer aussi qu'à ce moment-là, ces ports plus petits à petite échelle pourraient être des ports de pêche.
Alors, des ports de pêche, on pourra lier, comme je vous disais, beaucoup plus d'activités. Les ports de pêche, les ports liés à l'aquaculture, les ports liés à la recherche scientifique. Pour l'océanographie, les ports, enfin le même port, pardon.
Pourrait servir, aussi, c'est ça, les fonctions dont vous parliez.
Voilà, exactement, liées au tourisme. Donc, ces unités rassembleront toutes ces activités ensemble et donc auront une organisation et surtout un développement par rapport à l'économie d'énergie et par rapport à toute cette organisation portuaire liée à ces bateaux du futur.
Alors, comment les architectes se mobilisent pour imaginer ces ports de demain ? Est-ce que chaque agence travaille dans son coin ? Parce que aménager des ports, moi, dans mon petit esprit, je me dis aménagement du territoire global, on ne peut pas travailler tout seul. Donc là, on est dans les projets idéaux ?
Non, d'abord, chaque agence devra travailler avec un certain nombre d'autres disciplines d'ingénierie par rapport aux zones portuaires, par rapport
ça,
à tout
nouveau.
Ce qui est lié au développement durable, donc toutes les recherches qui se font dans ce sens-là, devront travailler aussi avec des paysagistes beaucoup plus, travailler avec des urbanistes. Donc, c'est cet ensemble de disciplines qui définira donc la marche à suivre et la réponse à apporter la plus juste par rapport à ces ports du futur. Mais je rappelle bien qu'à l'heure actuelle, pendant toute l'évolution des ports dans les années 70-80, ces ports, c'était beaucoup plus monofonction. Voyez-vous, c'est ça la nouveauté dans ces ports du futur, par rapport évidemment en plus au développement de toutes les activités liées à l'environnement, la façon de traiter les déchets, de pouvoir avoir des points d'appui de recherche sur tout ce qui est énergie nouvelle, renouvelable, venant de la mer.
On pense utiliser aussi l'énergie marémotrice ou pas ?
C'est assez difficile tant qu'on ne le décrit pas visuellement.
Oui.
Il faut les décrire visuellement parce que l'architecture qui va en découler autour de ces ports du futur, bien entendu, se fera en fonction des préceptes du développement durable. Et on va essayer de tendre vers une énergie positive de cette architecture et de toute cette organisation architecturale de ces ports du futur.
Vous voulez nous décrire un port du futur, de façon peut-être poétique ou imagée ?
C'est assez difficile sans une image graphique.
Alors à quoi pensez-vous ?
Voilà.
Mais vous...
C'est comme un bateau du futur pour le décrire. Par exemple, à l'heure actuelle, vous avez un bateau Polar Solaire. C'est un bateau qui est un trimaran, donc trois coques. Mais quand on le voit, il ne ressemble à aucun autre trimaran. C'est comme si orbitaire, c'est un vaisseau, un bateau. Si on ne le visualise pas, c'est très, très, très difficile si on ne l'a pas en image. Voyez-vous, alors si on prend le cas de ce voilier solaire qui est en train de traverser en ce moment l'Atlantique, donc il va faire la première traversée transatlantique avec l'énergie uniquement solaire, c'est très très difficile à imaginer ces trois coques, donc cette grande coque centrale suspendue comme un petit peu un os de sèche, voyez-vous, et puis au-dessus ces panneaux solaires qui se développent suivant l'ensoleillement. C'est très très difficile d'imaginer sa forme sans le voir en image.
Ben, on va aller voir des images de ça sur Internet tout de suite, dès qu'on peut, pour visualiser. Comment est-ce que les autorités européennes ou en France font appel aux architectes pour imaginer ces ports de demain en termes d'aménagement ?
À l'heure actuelle, avec le Grenelle de la mer, je vous rappelle qu'il a été lancé par Jean-Louis Borloo il y a un an, donc rassemble les différents acteurs du littoral pour justement réfléchir à travers les régions littorales à ces ports du futur. Donc on est né à une réflexion pour l'instant, à voir les impacts que ça va avoir, non seulement sur les structures existantes, mais sur les structures, donc sur le littoral proprement dit. Donc on en est vraiment au balbutiement de cette réflexion. Et il faut savoir que l'idée des ports du futur est venue parce que d'un seul coup, depuis 3 ans, il y avait une recherche sur les bateaux du futur, mais on s'est dit...
Mais comment on va faire ?
Voilà, quel est l'impact que va avoir ces bateaux du futur et comment leur créer un port qui soit vraiment adapté à cette nouvelle fonction qu'ils vont avoir.
Mais est-ce que c'est traité au niveau européen ? Parce que ça paraît une évidence.
Non, il y a des pays qui sont plus ou moins en avance. Moi, j'étais il y a 3 semaines en Hollande. La Hollande est plus en avance que d'autres pays européens. Le Danemark aussi, la Norvège la Suède sont plus en avance. Nous, on n'est pas complètement en retard, mais on est un petit peu en décalage. Mais on avance dans ce sens-là.
Il n'y a pas de programme de concertation ?
Pas encore. Pas vraiment, malheureusement. Alors, il y a eu à Copenhague des tables rondes auxquelles j'ai d'ailleurs participé, où on a commencé à réfléchir, à échanger sur les réflexions, les études que les différents pays menaient. Mais il n'y a pas une vraie concertation pour l'instant.
Vous revenez de Russie, m'avez-vous dit. À quel problème particulier les Russes sont-ils confrontés en...
Alors, les Russes sont très axés. Là, je reviens de Russie sur un autre développement. C'est le monde de l'espace et le monde sous-marin. Ces deux mondes qui sont très liés par rapport à ces milieux extrêmes, la façon de vivre dans l'espace ou de vivre sous la mer, il y a énormément de similitudes. Et à Moscou, ils viennent de faire, la Cité des Étoiles vient de faire une immense exposition sur le rapprochement de ces deux mondes et surtout sur le futur que représentent ces deux mondes pour les générations qui viennent. Et donc, ils ont offert aux enfants de Moscou et de la région de Moscou une grande exposition pour leur expliquer, au niveau pédagogique, ce que représentaient ces grands enjeux.
Ah, quelque chose qui a dû complètement vous séduire, parce que
ça a séduit énormément les enfants. Ça m'a évidemment séduit et ça m'a permis de revoir des amis russes cosmonautes. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la réaction des enfants par rapport à ce que ça représente ces deux mondes. Et leur attention toute particulière, le nombre de questions, l'enthousiasme qu'ils y ont mis.
On voit bien que la mer, la terre et les étoiles sont liées dans votre vision et dans votre approche du monde, surtout Jacques Rougerie. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur un événement marquant de cette année, qui a été la terrible marée noire qui a frappé le golfe du Mexique, qui a commencé en mai 2010. Aujourd'hui, la fuite est arrêtée, mais... quel est votre avis d'océanographe, d'architecte de la mer sur la gestion de cette crise ?
D'abord, mon avis d'homme, tout simplement, de citoyen. C'est vraiment une histoire épouvantable parce qu'elle aurait pu être prise d'abord plus en amont. Et puis les responsabilités, les actions, une succession de chaînes, c'est vraiment créé malencontreusement qui a amené cette catastrophe. Alors, elle aurait pu être évitée bien en amont. Et puis une fois qu'il y a eu cet incident... on aurait pu stopper beaucoup plus tôt, mais les bonnes décisions n'ont pas été prises. Enfin, on le sait. Les conséquences sont donc dramatiques, surtout pour la Louisiane, toute cette zone où on trouve les mangroves, donc des zones extrêmement sensibles, où la biodiversité est très sensible et immense, et extrêmement importante pour le golfe du Mexique après, puisque toute la chaîne alimentaire se développe dans ces zones-là. Donc, il est évident que c'est une catastrophe énorme. C'est pas une petite échelle. Déjà, le Torrey Canyon chez nous, c'était une grande catastrophe. Mais là, c'est à beaucoup plus grande échelle. Et en plus, c'est toutes les particules qui dérivent maintenant dans le Gulf Stream, justement. et ont des conséquences qu'on ne connaît pas encore pour le futur par rapport à toute la chaîne alimentaire, à la biodiversité, au phytoplancton, parce que c'est des millions et des millions de litres qui se sont déversés. En plus, il y a eu des réactions un peu rapides sur des détergents, enfin des produits qui ont encore accentué le phénomène. Et au niveau des sols marins, c'est-à-dire que là, vous avez maintenant une nappe qui a tué absolument toute la biodiversité au niveau des sols marins. Donc, c'est une trop grande échelle, voyez-vous. Et du coup, ça a des conséquences, non pas sur une zone, mais dans l'ensemble du golfe du Mexique. Et comme je vous le disais, ça va déraper sur toutes les côtes de Floride.
Alors, T-Orbiter, quand il sera construit, par exemple, on peut imaginer cette exploration du Gulf Stream avec... T-Orbiter va forcément rencontrer des particules de ce pétrole échappé.
Vous avez raison, ça peut être en effet un des programmes sur lequel nous nous penchons à l'heure actuelle avec des scientifiques, des océanographes, pour savoir si on ne va pas faire une étude systématique dans le Gulf Stream pour étudier justement les conséquences de cette catastrophe, mais d'autres catastrophes malheureusement ou des dégazages qu'il y a pu y avoir au cours de cette décennie.
Alors, encore tout récemment, c'est pas non plus très gai, mais les scientifiques revoient à la hausse, la vitesse, la rapidité de la fonte des glaces. Et on parlait des ports tout à l'heure, des ports du futur. Est-ce que c'est d'abord quelque chose qui va influer sur la construction de ces ports? Parce qu'on a même pensé tout récemment, ce sont les derniers avis scientifiques du GIEC, que la banquise, je ne devrais pas me tromper, de l'Arctique pourrait fondre deux fois plus vite et même d'ici une décennie. C'est pas 2050, c'est pas 2100, ça pourrait être très très rapide, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Tout à fait. Malheureusement, il y avait des signes annonciateurs il y a déjà pas mal de temps. On n'a pas voulu croire, donc un certain nombre de scientifiques ont mis en alerte le fait que l'homme accélère ce phénomène dû à notre monde dans lequel on vit. Donc on aurait pu, on se doit de freiner cette accélération. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard ou pas? Je ne sais pas. Ce qu'il faut de toute façon, c'est essayer de freiner cette accélération. La réalité, elle est là. Il faut l'assumer. Il va y avoir la montée des eaux. Mais ce qu'il va y avoir aussi de très grave, alors la montée des eaux par rapport au port dont on parlait, mais aussi tout le phénomène du littoral, d'aménagement. Il y a des zones comme la Camargue ou d'autres zones au Bangladesh ou les Maldives, donc des zones iliennes, où ça va poser des problèmes extrêmement graves. Alors, on peut faire confiance aux Hollandais pour essayer de résoudre technologiquement, parce qu'ils se sont préparés depuis tellement longtemps, des siècles.
Spécialistes du polder.
Spécialistes du polder. Donc, à mon avis, eux, ils vont trouver des solutions. Et ces solutions, peut-être certaines, pourront être adaptées à d'autres pays, je le souhaite. Ça, c'est la conséquence donc sur de la montée des eaux sur les ports et sur l'aménagement littoral. Mais il y a une autre conséquence que nous allons étudier avec le C-Orbiter, c'est le fait qu'il va y avoir une quantité d'eau douce,
nouvelle,
gigantesque, nouvelle, et puis il va y avoir donc une salinité qui va changer, qui commence déjà à changer, des températures du coup qui changent, donc des courants qui vont changer, et ça c'est aussi dramatique que la montée des eaux. Et donc avec C-Orbiter, entre autres, et d'autres engins, et mis à la mer, on va étudier justement les conséquences de ces changements de salinité, de changements aussi de température suivant les zones.
C'est ce qu'on appelle l'acidification des océans?
Aussi, entre autres.
Parce que là aussi, il y a de grosses controverses sur l'avenir du phytoplancton, parce que ça va changer.
Voilà, alors c'est toute la partie phytoplancton.
Qui est à l'origine.
Donc ça va, si vous voulez, développer ou au contraire l'inverse. Ces zones phytoplanctoniques vont changer d'emplacement, donc toute la chaîne alimentaire qui en découle va automatiquement changer, se modifier. On ne sait pas où on va, on ne sait pas du tout où on va. En plus, ça va avoir des conséquences sur toute la biodiversité des grands fonds. C'est pour ça qu'il y a toute une chaîne qui va être perturbée à une telle rapidité. Le problème, c'est la rapidité dans laquelle on rentre, parce qu'avant, ces changements climatiques, il y a toujours eu des changements climatiques depuis l'origine des temps, mais ça se faisait avec une telle lenteur sur des millénaires, des siècles et des millénaires, que tout organisme vivant prenait le temps et se réadaptait en fonction de ces changements climatiques. À l'heure actuelle, ça va tellement vite que ni l'humain ni la biodiversité va avoir le temps de s'adapter. Et c'est ça, on ne sait donc pas où on va.
C'est d'autant plus inquiétant que même les travaux scientifiques se remettent en cause eux-mêmes aussi, parce que là, par exemple, c'est le fait de ne pas avoir pris suffisamment en compte les glaciers du Groenland et de l'Antarctique dans cette fonte. Justement, c'était plutôt focalisé sur d'autres endroits, mais pas ceux-là. Et l'étendue et la masse considérable de la fonte de ces glaciers-là modifient les calculs. Ça n'avait pas été pris suffisamment en compte. Du coup, on passe de 50 ans, j'allais dire, à peut-être 10 ans. C'est un peut-être, bien sûr,
ans,
c'est impossible.
Même si c'est 20 ans, même si c'est 20 ans. C'est extrêmement rapide. Même si c'est 50 ans, c'est extrêmement rapide. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme, mais il faut être pragmatique. C'est une réalité maintenant. Ce qui est dommage, c'est que le monde scientifique ne se mette pas d'accord sur cette réalité et que donc le monde politique puisse vraiment agir au niveau planétaire. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les scientifiques qui portent la crédibilité et le jugement de ce que représentent ces conséquences n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça, c'est hallucinant. C'est des querelles, une fois de plus.
Controverses, querelles.
Des controverses, c'est ça, des faire-valoir de certains, des uns par rapport aux autres. Alors qu'il y a une réalité, je crois que...
Il y a urgence.
Oui, je crois que maintenant, tout le monde a conscience quand même de cette réalité, de ses conséquences, que l'homme est vraiment le facteur aggravant et qui crée cette accélération. Qu'on soit prudent, il ne faut pas non plus faire du catastrophisme et aller trop vite dans les réactions. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Il faut... Donc malheureusement, il va falloir, on va être obligé d'accepter la destruction d'un certain nombre d'espèces. On est obligé, mais il faut voir comment réagir à moyen terme, à très court terme, mais surtout à moyen terme et à long terme. Donc il vaut mieux maintenant avoir une politique de moyen et long terme pour vraiment sauver ce qu'il reste à sauver et avoir une autre attitude par rapport à l'environnement et que notre futur se présente d'une autre façon. Et donc un autre comportement de l'homme par rapport à l'environnement. Moi, j'y crois. Hein. J'y crois parce qu'il y a des réactions, il se passe un certain nombre. Bon, il y a eu Rio, il y a eu Copenhague, il y a eu Nagoya, il y a maintenant Cancun. Donc les acteurs se réunissent et on voit qu'il y a quand même une avancée, même si elle n'est pas suffisante. Bon, quand on voit ce qui s'est passé par rapport au thon rouge, c'est lamentable. Mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, il y a quand même une avancée qui est en train de se faire au niveau politique. Mais c'est bien insuffisant, bien entendu.
Bon, alors on espère que ces bouleversements seront le mieux gérés
possible.
Non,
il faut agir, mais il faut surtout, je crois, préparer l'avenir. C'est-à-dire, il y a des hommes qui sont faits pour mener des combats actuels, et puis il y a des gens dont je fais partie, qui sont faits pour préparer l'avenir. Et l'éducation m'apparaît être l'élément clé. Il faut absolument éduquer les jeunes. C'est plus la sensibilisation, c'est les accompagner à pouvoir, dès qu'ils vont être acteurs, agir sur tous ces engagements qu'ils devront prendre.
Retrouvez Jacques Rougerie pour un prochain rendez-vous des Sentinelles de l'Océan sur Canal Academy pour l'entendre parler, je le cite, de l'océan, source de vie qui assure à bien des égards l'équilibre de la planète. Alors merci Jacques Rougerie d'être venu nous parler de la mer et de son avenir proche, d'être venu vous entretenir avec nous de cette architecture de la mer. Et je rappelle qu'avec votre agence d'architectes et votre fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer, c'est son nom, vous avez placé votre œuvre d'architecte de la mer au service de tous et surtout des jeunes. J'engage les auditeurs à consulter le site internet de la fondation et de découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Sea Orbiter, dans un très beau livre qui s'intitule « De 20 milieux sous les mers à Sea Orbiter », dans lequel on trouve une préface de Jean-Loup Chrétien. Ça montre bien votre conception, Jacques Rougerie, qui lie à la fois l'espace, la mer et la Terre.
Tout à fait. Et je rappelle que Sea Orbiter, c'est une nouvelle forme d'exploration, c'est une aventure humaine qui permet à un équipage dont je vais faire partie de regarder sous la mer 24 heures sur 24 sur des longues durées, donc à travers le Gulf Stream, et surtout de pouvoir sortir à l'extérieur du Sea Orbiter. C'est une sorte de ruche d'où partent des abeilles, butiner un certain nombre d'informations à la collecte de ces informations et de pouvoir les transmettre aux générations futures.
Vraiment, je le dis, c'est un beau livre, grand format. C'est aux éditions Democratic Book et il est paru en avril 2010. Et c'est pour rêver et pour prendre conscience de notre devoir. Oui, c'est peut-être un peu fort, mais...
Non. On a un devoir envers la nature, et si on a un autre comportement par rapport à la nature, je pense qu'il y aura un nouveau comportement entre hommes.
Merci Jacques Rougerie.